Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Bonjour Okaya.
Bonjour Grace.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales.
Ici, on parle d'arabes, d'asiatiques, de blancs, de roms, de noirs et le tout sans complexe.
Nous parlons aujourd'hui du cinéma français et d'un thème d'actualité car on approche de la cérémonie des Césars, la cérémonie de récompense des meilleures productions françaises de l'année. Les Césars auront lieu le 22 février 2019 à la salle Pleyel pour la 44e édition. Et à l'annonce des nommés de 2019, comme pour ceux des années précédentes, j'ai envie de dire, il y a eu des échanges houleux sur la toile, où en est la représentation des personnes non blanches dans le cinéma.
Pour nous accompagner dans cette discussion, nous avons le plaisir de recevoir Alice Diop. Salut Alice.
Salut Rokaya.
Salut.
Salut Grace.
Alors Alice, tu es autrice et réalisatrice de films documentaires, formée entre autres à la prestigieuse FEMIS, une école de cinéma de référence dans le monde du cinéma. Parmi les plus grands, on peut citer la mort tes plus grands succès, on peut citer La mort de Danton en 2011, qui a obtenu le fameux prix étoilé de la SCAM, La permanence en 2016, prix de la compétition française au Festival du cinéma du réel, ou encore Vers la tendresse, qui a reçu le César du meilleur court-métrage. Voilà.
Enfin, je veux juste préciser quand même que en fait, j'ai été pas tellement formée à la FEMIS, j'ai été formée à l'atelier documentaire de la FEMIS.
D'accord.
Ce qui fait toute la différence. On est très peu d'auteurs racisés à avoir été formés par la FEMIS. Et à mon avis, ça va être l'objet aussi d'une discussion entre nous.
D'accord.
Dans Kif Taras, on demande à nos invités de se situer sur le plan racial. Par exemple, je suis asiatique, Rokaya est noire. Est-ce que toi, Alice, tu te définis et comment ?
En fait, pendant longtemps, j'ai refusé en fait de me définir, mais presque pour une question politique. En fait, j'ai l'impression que la manière dont je me définis, elle dépend de mon interlocuteur et de la personne qui me pose la question. Donc, je me définis comme étant Alice Diop, et ça, je trouve que c'est déjà tellement complexe et tellement, il y a tellement de choses dans ce que je suis, la manière dont je me vois, que j'ai du mal à être réduit à quelque chose qui me semblerait trop homogène. Mais après, je suis une femme noire, et en fait, j'en suis assez fière. Je suis perçue, enfin, je pense que je suis une femme noire racisée. Mais vraiment, enfin, c'est cette question de l'identité, pour moi, et c'est d'ailleurs la manière dont j'ai vécu tout ce qui s'est passé après les Césars, même si je fais du cinéma depuis très longtemps, en fait, j'ai eu une espèce d'exposition médiatique hyper forte à partir de ce moment-là. Et c'est vrai que pendant très longtemps, je refusais de prendre ce rôle, en fait, du symbole de la diversité triomphante. Mais pour plein de raisons. En fait, et presque pour des raisons politiques. Et en fait, je me suis aperçue que finalement, refuser de prendre ce rôle pour des jeunes filles noires qui m'arrêtaient dans la rue, et j'en ai rencontré beaucoup, et j'en ai rencontré une ne serait-ce que la semaine dernière dans le métro, qui me dit « mais en fait, on est hyper fiers de toi », etc. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas non plus ne pas complètement prendre ce symbole-là. Et qu'en fait, voilà, donc quelque part, la manière dont je me définis en tant que femme, en tant que noire, en tant que femme noire française, en tant que cinéaste, c'est très très protéiforme en fait.
Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu t'es rendu compte que tu étais noire ?
Alors en fait, je me suis rendu compte que j'étais noire quand j'ai quitté mon quartier, parce que j'ai grandi à Aulnay, au 3000, et que je suis montée à la capitale, entre guillemets, pour faire des études à la Sorbonne.
Donc Aulnay-sous-Bois, c'est en Seine-Saint-Denis.
Aulnay-sous-Bois, j'ai grandi au 3000, en Seine-Saint-Denis. Et je crois que je me suis rendu compte que j'étais noire, enfin même si je l'ai toujours su, hein, mais vraiment de façon extrêmement violente, à un jour où j'étais dans un après-midi à la bibliothèque de la Sorbonne, en train de travailler sur un exposé. Je me suis levée, j'ai regardé autour de moi et je me suis aperçue que j'étais la seule femme noire. Enfin, j'étais le seul noir et la seule femme noire. Et là, en fait, je me suis rendu compte que... Et ça, c'est quelque part, c'est un événement, un épisode qui m'arrive tout le temps. C'est-à-dire, à la cérémonie des Césars, on était deux noirs dans la salle. Quand je suis au CNC, je suis la seule femme noire. Enfin, quand je siège dans des commissions ou quand je suis sur un tournage. Enfin, et qu'en fait, c'est la première fois où j'ai pris conscience, en fait, du chemin que j'avais parcouru et de la solitude dans lequel ce chemin-là dans lequel elle me mettait, en fait. Et je pense que c'est là où j'ai toujours su que j'étais noire, mais je l'ai su au regard des autres à ce moment-là.
Ouais, ça n'avait pas le même sens, en fait.
Ça n'avait pas du tout le même sens.
Alors, quand est parue la liste des nommés pour les Césars 2019, l'état des lieux était assez parlant. Sur les catégories les plus populaires, films, réalisation, acteurs, actrices, second rôle, meilleurs espoirs, les seules personnes non blanches ou perçues comme non blanches sont Leila Bekti pour un second rôle dans Le Grand Bain, Kenza Fortas nommée comme meilleur espoir féminin pour Scheherazade, ou Karim Leclou pour un meilleur espoir masculin. À l'annonce de la liste, j'ai posté sur Twitter une réponse interloquée à un tweet qui détaillait la liste des nommées dans la catégorie meilleure actrice, qui mettait en avant plusieurs actrices. Donc les nommées sont Élodie Bouchèze, Cécile de France, Léa Drucker, Virginie Efira, Adèle Anaël, Sandrine Kiberlin et Mélanie Thierry. Et en fait, sur la photo qui accompagnait le tweet, il y avait quatre visages de femmes blondes. Et j'ai trouvé ça extrêmement parlant sur la disparition non seulement des runes, mais de toutes les autres femmes qui ne sont pas blanches. Et en fait, ce qui m'a vraiment frappé, c'est le déluge de tweets de colère qui s'est abattu en réponse et qui, pour moi, montre bien le malaise. Je vous donne un exemple. C'est vous la raciste, Madame Rokhaya Diallo. À chaque fois que vous parlez, on ressent la haine envers les blancs, blancs entre guillemets. Demandez-vous simplement quelle comédienne en 2018 entre guillemets black ou d'autres origines méritait d'être nommée pour leur rôle. Donnez un nom. Trois petits points. Et en fait, je trouve que la personne, qui perçoit de la haine des blancs, quand je dis juste que c'est bizarre quand même qu'en 2019, on n'ait pas d'actrice non blanche nommée dans la catégorie meilleure actrice. Et en fait, je trouve que le problème, c'est si on ne peut pas en nommer, c'est bien parce qu'il y a un problème d'accès à des rôles qui permettent d'être nommés au César pour les actrices non blanches.
Ce n'est pas une question de talent.
Ouais, exactement.
C'est pas qu'il n'y en a pas.
Non, mais en fait, j'ai l'impression que ce qui est très lassant en France, c'est qu'on a, en permanence les mêmes discussions, en fait, qui mènent toujours à des impasses. Il y a quelque chose d'une impossibilité de voir le réel qui est assourdissante et qui est, dont je ne me remettrai réellement jamais, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, la photo de... Et c'est encore une fois pour la raison pour laquelle j'avais pas du tout envie que le César obtenu avec Mémouna, soit...
Mémouna Doucouré qui a obtenu le César avec toi pour Maman.
Qu'on a obtenu ensemble, soit une manière finalement de nous endormir pendant 40 ans. C'est-à-dire, c'est formidable, tout le monde en parle. Mais non, c'est pas formidable, c'est presque tragique qu'on en soit là, en fait. Qu'on l'ait eu... C'est-à-dire qu'à la fois, j'étais hyper heureuse, etc., et très fière. Et en même temps, ça racontait quelque chose... finalement, ça venait mettre le doigt sur quelque chose d'extrêmement violent.
C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit une porte ouverte, le début de quelque chose, en fait, c'est le quota est atteint, on en a mis deux d'un coup,
Non, mais en fait, c'est plus comment on a pu en arriver là, c'est-à-dire comment on a pu en arriver à une situation où deux femmes noires en France reçoivent un César après que la précédente l'ait reçu 30 ans avant. Est-ce qu'on va attendre 30 ans de plus? Pour moi, c'était aussi le révélateur de quelque chose, d'une photographie, plus que du cinéma d'ailleurs, de la société française, complètement ahurissante en fait.
On a fait un petit tableau des lauréats et des nommés depuis 2000 dans toutes les dans les plus grosses catégories, et les personnes racisées sont assez peu présentes. Alors on va nommer, il y en a plusieurs qui viennent à l'esprit, comme Omar Sy pour Intouchables dans la catégorie meilleur acteur, ou les films d'Abdel Latif Kechiche qui ont reçu des prix.
Il y a Rachida Brakni, Lindan Pan,
D'ailleurs, aussi, personnellement, moi, je trouve que l'un des autres grands scandales de cette photographie des nommés César cette année, c'est l'absence, pour moi, ce n'est qu'à mon avis, mais je pense que je ne suis pas la seule à partager ça, du plus grand réalisateur français qui est Abdel Latif Kechiche. Mmh. Je ne sais pas si vous avez vu son film Make to My Love, mais moi, c'est le coup de cœur que j'ai de l'année cinématographique. Et il est nommé nulle part. Enfin, je veux dire, c'est quand même aberrant. Après, c'est quand même assez aberrant.
Toi, quand tu as été primé pour Vers la tendresse, on a beaucoup dit de ton travail qui portait sur les quartiers, que tu étais la voix de la banlieue, la cinéaste du ghetto. Enfin, en gros, c'est ta case, ça. Est-ce que tu te sens enfermée dans cette case?
Mais en fait, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps à New York, à Columbia, où j'ai été invitée pour un séminaire qui s'appelait Blackness in French Cinema. Donc déjà, j'étais très, très... honorée en fait d'être en compagnie de Rokhaya Diallo, de Amandine Gay, de Mame Fatou Niang, des jeunes femmes noires réalisatrices qui représentaient le cinéma français. Déjà, je trouvais ça assez culotté et je m'étais dit qu'un panel de ce genre n'aurait jamais pu avoir lieu dans une université française.
Chez nous.
Donc je reconnaissais à la fois pas l'audace, mais en fait le sens du réel des États-Unis sur ces questions-là. Et donc la salle était remplie d'étudiants. Vraiment, enfin, il y a eu un échange extrêmement magnifique avec les gens les étudiants de Columbia. Et en fait, il y a un prof qui m'a interrogé sur le film. Et la première question qu'il m'a posée, c'est: Madame Diop, en fait, je perçois dans votre film une espèce de parenté très lointaine avec un film de Marguerite Duras qui s'appelle Les Mains Négatives. Il m'a demandé si je l'avais vu et en fait, si ça a été pour moi une source d'inspiration. J'étais interloquée parce que, bien évidemment, que Les Mains Négatives de Marguerite Duras sont une source d'inspiration pour Vers la tendresse. Sauf qu'en France, personne ne m'aurait jamais posé cette question-là. C'est-à-dire qu'en fait, il a vu le film et en fait, on a abordé la question du sujet du film par la forme.
Alors en juste, fait... on va faire une parenthèse, rappeler le sujet du film, c'est sur l'amour, la perspective masculine de l'amour dans les quartiers populaires.
Voilà, français. En fait, c'est quatre voix singulières de garçons qui me parlent de leur rapport à la tendresse, de leur rapport à l'amour, de leur rapport aux femmes, de leur impossibilité à rencontrer des femmes. Donc c'est pas non plus un film qui dirait comment on aime dans les quartiers populaires, parce que je pense qu'on n'aime pas nécessairement différemment qu'ailleurs, mais en fait c'est un film effectivement qui interroge la masculinité à cet endroit-là, mais en l'interrogeant à cet endroit-là, elle l'interroge de façon beaucoup plus générale dans la société française. Et pour moi, en fait, j'ai toujours considéré, et c'est réellement ce pourquoi je me bats, c'est qu'en inscrivant mes films dans une réalité territoriale très définie qui est la banlieue, en fait ces films peuvent interroger l'universel. Et ça, c'est réellement mon combat. Et je pense que c'est presque un combat politique. Et c'est effectivement, il y a peu de gens en France qui me prêtent et qui cette possibilité-là. C'est-à-dire que forcément, je suis le porte-parole de la banlieue. Après les Césars, dès qu'il y avait un problème en banlieue, on m'appelait. Comme si j'étais devenue l'espèce de référente. Et en fait, cette chose-là, c'est qu'en fait, je la trouve qu'elle est extrêmement condescendante et elle nie mes qualités de cinéaste. Elle nie ma capacité, finalement, à inventer des formes et par l'invention des formes, à questionner la société. Ce que cette anecdote avec ce professeur à l'Université de Columbia révélait, c'est qu'il voyait dans ce film avant tout un film de cinéaste, et bien sûr qu'il aborde des questions qui peuvent être des questions sociologiques, des questions de société, etc., mais on l'aborde dans la reconnaissance de ma capacité à inventer des formes, ce qui n'est pas le cas, où j'ai l'impression qu'en France, ce n'est pas évident.
C'est un peu ça, ce qui se passe pour les cinéastes non-blancs, j'ai l'impression que c'était le cas pour Divine aussi, c'est qu'en fait, on interdit aux cinéastes non-blancs le droit à la fiction. C'est-à-dire que systématiquement, on va prendre leur création pour une forme de témoignage ou d'analyse sociologique, comme si en fait, il n'y avait pas de possibilité de création artistique et de distanciation par rapport à un réel. Donc on va prendre pour argent comptant le récit, par exemple, Divine, on va dire que c'est un commentaire sur la banlieue, etc. Et on ne va pas du tout voir la poésie qu'il peut y avoir dans ce qu'a conçu Ouda Benyamina.
Mais c'est la raison principale sur laquelle je me bute, sur laquelle je me bats, et c'est ce pourquoi je veux... C'est la raison principale sur laquelle je me défends. Je veux dire, moi aussi, j'ai été invitée dans une émission de France Inter que je ne citerai pas pour présenter Vers la tendresse. Et en fait, j'arrive dans le plateau et je suis avec un sociologue, un espèce de jeune loup de l'UMP. Et en fait, je m'aperçois que je ne suis pas là pour parler de mon travail de cinéaste. Je ne suis là que pour participer à un débat politique autour de les mecs de banlieue sont-ils tous des violeurs ? Enfin, un truc complètement ahurissant. Et à chaque fois que le journaliste me posait la question, je leur disais, mais je ne peux pas répondre, je ne suis pas sociologue. Je suis cinéaste. Je n'ai jamais dit que mon film était la représentation des mecs de banlieue, ces quatre voix singulières qui parlent à partir de leur singularité, et en fait c'est l'addition de ces voix qui dit la complexité, mais en aucune façon je peux, tu vois, discourir avec un mec d'un bourg politique différent pour représenter à moi toute seule la voix des mecs de cité, la voix des quartiers, quoi. Et c'est vrai que c'est... Les gens, en fait, ils comprennent pas, c'est pour ça que pour moi, la question n'est pas uniquement colorier l'écran. C'est pas que ça, c'est-à-dire effectivement se dire statistiquement il y a un réel problème, il n'y a pas assez d'acteurs, etc. machin. Mais je pense que la postmodernité, c'est de dire quel rôle et quel cinéaste et comment finalement à travers un film. Et je travaille en ce moment sur un scénario de fiction. Tous mes personnages sont des femmes noires. Enfin, les personnages principaux sont des femmes noires. Mais ce qu'elles interrogent, c'est la maternité. Et en fait, j'espère qu'une femme blanche, une femme asiatique pourrait regarder le film en disant ça parle de ma propre mère, ça parle parle de mon propre rapport à la maternité. Et pour moi, si ce film... Enfin, je veux vraiment voir si, c'est, enfin, si cette espèce de souhait que j'ai, qu'on peut aussi porter l'universel, qu'on peut être des personnages qui transcendent, dont la vie transcende notre assignation à notre race, si c'est possible.
Tu m'as raconté aussi une anecdote, alors deux anecdotes. Une qui concerne la classification de ton travail dans les rayons des personnes qui vendent, enfin des établissements qui vendent des DVD, et puis une autre qui est liée au César.
Oui, alors ça, j'étais. Comme quoi, la question des stéréotypes et la question de là où on en est, c'est très loin. Donc j'étais donc invitée au Fouquet's pour le traditionnel dîner dénommé qui a lieu trois semaines avant la cérémonie des Césars. Donc bien sûr, avec Mehmouna Doukouré, nous étions les deux seules femmes noires. Et je commande un Uber en sortant du Fouquet's. Et là, je rentre dans le Uber où le chauffeur est un homme noir. Il me demande, il me dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi il y a un attroupement des journalistes, des photographes devant? Et je lui explique que c'est le déjeuner dénommé. Il me dit, ah oui, c'est génial et tout. Donc là, en fait, tu travailles, t'es serveuse au Fouquet's? Et je lui dis, écoute-moi bien, mon frère, franchement, je te jure, regarde-moi bien dans les yeux, l'heure est venue que non, moi, je suis nommée au César comme les autres. Et le temps est venu, même pour toi, de faire un rewind dans ta tête. Quoi. C'est un truc hallucinant.
Donc, comme quoi, la question. Et en même temps, c'est très triste sur l'intériorisation qu'on a de notre position sociale.
C'était impossible que je sois
en dehors de Fouquet's.
Voilà, sans être.
Sans être serveuse.
Et l'autre question, c'est la question de... En fait, c'était à Gilbert Joseph.
Oui, en fait, c'est une de mes étudiantes qui m'a informée. Enfin, elle s'est engueulée avec le vendeur du rayon cinéma de Gilbert Jeune à Saint-Michel, ne citer que lui. Et parce qu'elle cherchait mon film. En fait, mon film est au rayon cinéma d'Afrique, alors que c'est un film qui a obtenu le César du cinéma, le César du court métrage français, et qui est un film totalement français qui se passe en France avec une réalisatrice qui est française. Et il était au rayon. Et en fait, j'y suis allée. Je me suis dit, mais attends, je vais venir avec mon César, je vais le poser sur le comptoir pour leur dire, mais attendez. Et j'y suis allée quand même en leur disant, mais écoutez, moi, je trouve ça scandaleux que vous mettiez mon film au rayon cinéma d'Afrique. Enfin, je veux dire, je vois pas, il est tourné en Seine-Saint-Denis. C'est un film.
C'est en français, la langue française.
C'était complètement. Et en fait, il n'a pas été plus loin que Diop. Il n'a pas été plus loin que Diop.
C'est
quoi.
Sûr, ouais.
Donc, quelque part, ça dit. Alors que le distributeur est français, enfin, tout est.
C'est-à-dire que Diop, ça ne peut pas être considéré comme français.
Non. Non.
Diop non. Plus noir, bon, Diop sont généralement noirs, mais c'est pas le cas pour
tout
le monde.
Ça peut être considéré comme français. Mais c'est tout le problème. C'est pour ça que pour moi, le cinéma, en fait, c'est un instrument puissamment politique et l'incapacité, finalement, que la France a d'updater le réel. Je crois qu'il y a une responsabilité que le cinéma français porte aussi là-dessus, c'est-à-dire dans la question des représentations. Et pour moi, c'est un outil très puissant pour remodeler, finalement, la photographie d'un pays, le cinéma. Et le fait qu'on en soit si absent, ou en tout cas qu'on soit si à la marge, est pour moi un réel problème. Enfin, moi, je siège en ce moment au premier collège de l'Avent-sur-Recette. Et en fait, ça fait même pas un an que j'y suis. Il y a très peu de projets de gens racisés que j'ai eu à lire. Très, très peu. Donc c'est aussi
des barrières avant même la sélection.
Avant même qu'ils puissent y arriver. Encore, c'est même pas une question moi, je peux pas être toute seule à porter finalement cette voix-là et à mobiliser, à sensibiliser les gens sur la nécessité de renouveler en fait le vivier des auteurs, même si je crois quand même que le CNC est engagé depuis quelques temps dans une réflexion là-dessus, qui porte pas complètement ses fruits, mais en tout cas qui a le mérite d'exister. Donc en renouvelant les commissions, en tentant d'être beaucoup plus attentive à ces questions-là. Après, par exemple, à l'Avent-sur-Recette, si on était deux, je pense que ce serait très bien, enfin, de ne pas être la seule à porter ce poids. Mais il n'empêche qu'il y a il y a des auteurs qui sont pas racisés et qui le portent et qui voient la nécessité aussi. Donc ça c'est quand même des choses qui avancent positivement. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a des barrières avant quoi.
Là, on comprend que le cinéma français est très, très blanc, donc la blanchité dans le cinéma français est importante. On a beaucoup lu dans la presse que les Césars étaient endogames, et du coup qu'il n'y avait pas de place pour les personnes qui n'étaient pas issues de ces milieux-là, donc c'était fille d'eux ou fils d'eux, c'est beaucoup plus simple pour toi. Et du coup, il y a eu une réflexion, il y a quelque temps, sur les films populaires qui font un carton au box-office et qui ne sont jamais presque récompensés au César, comme ça a été le cas pour Bienvenue, c'est les Ch'tis. Et en 2018, l'année dernière, on a créé une catégorie qui s'appelle le César du public, et qui donc a été remis pour la première fois à Danny Boone pour Red Ding. Donc, est-ce que c'est ça la réponse des Césars aux critiques? C'est-à-dire qu'on a créé un prix du César je vais le dire comme ça, mais César du film beauf, quoi. C'est-à-dire le fait que ce soit un film, que les c'est pas un film d'auteur qui a capté sur Télérama, c'est un film qui a fait un carton dans des endroits où il lise pas Télérama, justement. Est-ce qu'il faudrait donc créer un César de la diversité? Bon, c'est une question rhétorique, hein, tu vois, mais bien sûr qu'il faudrait pas. Mais est-ce que c'est ça la réponse des Césars à une critique du cinéma français blanc?
Ouais, j'espère pas. S'il faut créer un César de la diversité, je veux dire, c'est
horrible.
C'est enfin, vraiment, ce serait une catastrophe. Moi, je pense, en fait, je trouve que plus que les Césars, c'est encore une fois la photographie, plus que du cinéma, de la société française. Et qui est en France à des postes de pouvoir, qui se sent autorisé à poser un récit, qui se sent légitime, qui a les connexions pour. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est... La question, elle est réellement là, en fait. Et je pense que les Césars ne sont que, finalement, le miroir de quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est en ça où l'initiative de mener par 50-50, vraiment une initiative pour mettre vraiment la question de la parité au cœur du cinéma. En fait, la question de la parité, c'est très bien, mais moi, finalement, j'ai été beaucoup plus discriminée en tant que noire qu'en tant que femme dans ma vie, et y compris dans le cinéma. Et de fait que 50-50 comprennent que la question de la diversité, on peut pas, enfin, la question de la parité ne peut pas être dissociée de la question de la diversité, parce que nous, on n'a pas le choix, finalement, de choisir entre la chose qui nous discrimine le plus. Et je pense que c'est réellement des prises de conscience politiques, mais qui ne sont pas que des prises de conscience politiques, c'est-à-dire que presque une stratégie de lobby autour de ça qui va réellement changer les choses, quoi.
On peut faire le parallèle avec les États-Unis, avec notamment ce qui s'est passé en 2016 avec la controverse Oscar So White. Le hashtag avait été créé par April Rain pour dénoncer le manque de représentation dans le cinéma hollywoodien. Cette année-là, à part Alejandro Iñárritu pour Birdman et la nomination du film Selma, il n'y avait pas de nommé non-blanc, ce qui est quand même assez paradoxal aux États-Unis. Et donc, interviewée par MTV, la personne, donc April Rain, qui a créé le hashtag, a dit « Ce n'est pas parce qu'il y a un manque de films de qualité auxquels contribuent des personnes non-blanches, ce n'est pas là la question. Les personnes qui votent pour les Oscars, selon un article de The Atlantic, sont à 94% des blancs, 76% des hommes et l'âge moyen est de 63 ans. Ceux-là ne sont peut-être pas intéressés par le film Selma. » Et en 2016, effectivement, la présidente des Oscars a déclaré que l'Académie s'engageait à doubler le nombre de votants issus de la diversité, entre guillemets, d'ici 2020. Est-ce qu'on sait qui vote au César et est-ce que justement il n'y a pas un problème de représentation parmi les gens qui votent et du coup qui vont exprimer une sensibilité qui n'est pas forcément celle qui est conforme à celle de la société française actuellement?
Moi, je pense qu'il y a deux choses. C'est à la fois, en fait, les films ne sont pas là. Les films faits par des auteurs racisés, ils vont sans doute arriver dans les prochaines années, mais personnellement, ils ne sont pas encore là. Ouais. Je veux dire, Mémouna Doucouré, elle fait son premier long métrage, Mati Diop fait son premier long métrage. Je peux citer Diana, je peux citer
Diana Gay,
l'auteur.
Et Lajli aussi, par exemple.
Lajli qui va sortir son premier long métrage. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est un phénomène qui est presque. C'est un sens de l'histoire qui est en marche. Il y a tous ces gens qui vont faire des premiers films qui, j'espère, vont complètement modifier la représentation en fait, du cinéma et dans les prochaines années. Mais il y a aussi le fait que les gens au César, les gens qui sont.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Les à voter sont des gens qui ont été nommés. Donc en fait c'est presque c'est un serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que c'est les mêmes personnes qui votent pour les, enfin c'est des gens qui ont été nommés mais qui votent pour les films,
qui est des gens qui vont leur succéder, en fait c'est une espèce voilà, d'entre-soi complètement.
Donc, moi je pense que c'est comment on entre dans le système, en fait comment on entre dans le milieu. J'ai l'impression que la question en France elle se pose vraiment là, comment on renouvelle un vivier d'auteurs, comment on va chercher vers les marges, comment on aide les gens à finalement accéder à des carrières et comment on leur permet de se sentir légitimes là où peut-être qu'ils il pensait qu'il ne l'était pas. Comment on remet en question finalement le système aussi de financement? Est-ce que ça passe que par l'avance sur recette qui est extrêmement sélective, qui vraiment est... Voilà, je pense que c'est toutes ces réflexions-là, à mon avis, qui doivent être menées, dont les gens parlent depuis très longtemps et en fait dont on attend aujourd'hui, je pense, que des réponses concrètes. Moi, j'ai 40 ans, je ne sais pas si tu te souviens, Rokhaya, mais il y a 15 ans ou il y a 10 ans, on était déjà invités dans des séminaires avec des sociologues pour parler de la question de la diversité, de la représentation dans les médias. 15 ans après, bon, qu'est-ce qui a changé? Oui, on a eu deux Césars du court-métrage, mais pour moi, c'est presque pathétique, en fait. Je veux dire, c'est sociologiquement pathétique. C'est très bien pour moi, pour ma carrière, mais je veux dire, ça ne suffit pas politiquement. On ne peut pas se contenter de ça, en fait.
The only thing that separates women of color from anyone else is opportunity. You cannot win an Emmy for roles that are simply not there.
Donc ça, c'est Viola Davis à la cérémonie des Emmy, où elle a eu son prix pour How to Get Away with Murder en septembre 2015, et elle a cité Harriet Tubman, et elle a dit « La seule chose qui sépare les femmes non-blanches des autres, c'est les opportunités. Personne ne peut recevoir un Emmy pour un rôle qui n'existe pas. » Donc je pense que c'est ce que tu dis, Alice, quand tu dis « Où sont les... » Enfin, là, elle le dit à la fin, on n'a pas gardé pour l'extrait, mais « Où sont les Shonda Rhimes, qui a écrit Grey's Anatomy Où sont les John Chu, le mec qui a fait Crazy Rich Asians, et d'autres » C'est-à-dire, est-ce que l'accès à ces métiers-là, en France, on parlait de la féministe tout à l'heure, mais est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas abordable pour des personnes qui ne sont pas privilégiées, qui ne sont pas dans des milieux artistiques? Quelle est aujourd'hui la part des étudiants dans ces écoles de cinéma qui est non blanche?
Je pense qu'il y a une volonté politique pour de la FEMIS d'ouvrir en mettant des accès à la diversité. Il y a la résidence, je crois, ou l'atelier, je ne sais plus exactement le nom. Mais c'est vrai qu'il y en a très peu. Et tout à l'heure, je déjeunais avec ma co-scénariste et j'ai rencontré un acteur qui s'appelle Sekouba Doucouré. Et en fait, on discutait ensemble et il se plaignait effectivement pas tellement la pauvreté des rôles qu'il reçoit, mais la pauvre quantité de scénarios qu'il reçoit. Et en fait, il me disait, mais on a besoin que vous arriviez. Et je me dis qu'effectivement, les acteurs noirs, l'initiative qui est menée par Noir n'est pas mon métier était extrêmement intéressante et pertinente à cet endroit-là. Mais pour moi, encore une fois, c'est pas en coloriant l'écran. C'est-à-dire en disant, voilà, j'écris un film, finalement, je vais rajouter là ou là, soit une femme noire, soit une femme arabe. Non, en fait, c'est leur donner une densité. C'est-à-dire que les mettre au centre, et pas, parce qu'il y a quelques acteurs noirs qui... Moi, je vois de plus en plus de films où, effectivement, il y a peut-être 5 ans, on n'aurait pas demandé à l'agent immobilier... Enfin, l'agent immobilier n'aurait pas été joué par une noire. Là, elle est jouée par une femme noire. Mais le rôle est tellement... Enfin, tellement peu signifiant, en fait, que finalement, je me dis, on ne peut pas se contenter de ça. Là, pour vous donner un exemple très précis, je suis en train de travailler sur un film sur le rapport entre une mère et sa fille, la difficulté qu'on a à être mère à partir de la mère qu'on a. Et en fait, je suis en train d'inventer le personnage d'une femme africaine, sénégalaise, qui a entre 65 et 70 ans, bon, un peu une émanation de ma propre mère. Et le scénario, dans la façon dont elle écrivait, elle manquait de densité. Et du coup, en fait, on a décidé avec ma co-scénariste d'écrire en fait un espèce de monologue intérieur de cette femme pour vraiment essayer de la saisir. Et je l'ai fait, et en fait, j'étais stupéfaite de me rendre compte que je n'avais jamais abordé ces femmes que je vois dans la rue, des femmes qui sont ma mère. Enfin, c'est-à-dire que avec une densité, un relief romanesque, et que je n'ai jamais vu dans la littérature, mais je ne l'ai jamais vu non plus au cinéma. Et rien que le fait d'écrire cette femme, tout d'un coup, c'est comme si, non pas je lui donnais naissance, mais presque je lui donne naissance au cinéma. Donc la question, en fait, c'est de créer des rôles denses qui permettent à des gens qui voient ces femmes dans la rue tout le temps, et qui ne les regardent pas, qui ne savent pas qui elles sont. Donc il ne s'agit pas d'aller mettre une femme en boubou qui marche dans la rue, qui a une interaction complètement superficielle avec sa fille dans un film fait par des gens qui ne les ont jamais vus, qui ne les connaissent pas. Il s'agit de leur donner la première place. Et c'est en fait en donnant à des personnages qu'on n'a jamais vus la première place qu'on pourra réellement avoir une vision beaucoup plus complexe de ce que c'est que la société française, parce que ces femmes sont des femmes qui font la société française, ce sont nos mères. Et c'est un exemple qui prouve que c'est de ça dont on souffre et dont on manque, j'ai l'impression.
Mais c'est ce que te disait justement Sekouba Doucouré quand tu l'as vu, c'est qu'en fait, pour le penser lui comme un être complexe, il faut que ce soit des gens qui le connaissent, qui le fréquentent au quotidien, qui puissent écrire des rôles et qui ne soient pas juste un truc, oh, on va mettre un noir, et puis ce noir-là, finalement, c'est une espèce d'émanation qui correspond à l'imaginaire collectif, mais qui ne l'humanise pas réellement. Et ça, effectivement, il faut que ce soit toi ou une réalisatrice asiatique ou arabe pour que ça soit...
Moi, je crois qu'il y a deux choses dans ce que tu dis, Alice, qui sont hyper intéressantes. C'est que d'une part, il faut des rôles, et donc il faut des histoires qui se racontent. Mmh. Et donc il faut que les personnes qui racontent ces histoires soient, aient une légitimité par rapport à cette histoire-là, parce que c'est des histoires qui ne sont pas racontées ou qui ont été racontées depuis un certain temps par un prisme qui n'est pas un prisme qui prenne l'intégralité de l'humanité de ces personnes-là en compte. Et de l'autre côté, il y a aussi le fait que des acteurs noirs et des comédiens noirs peuvent jouer des rôles universels, et je crois que tu l'as très bien raconté dans La mort de Danton, parce que le personnage... Enfin, non, le jeune homme, là, Steve, il dit, et je trouve que cette scène est incroyable quand il est dans cette école de le cours Simon, donc c'est, et il dit, mais ça fait un an que j'attends un rôle, et le prof lui donne pas de rôle parce qu'il dit, il n'y a pas de rôle de noir pour toi. Mmh. Et que lui, il dit, mais moi, je veux Danton. Et il dit, mais Danton, à cette époque-là, il n'y avait pas de noir, donc tu ne peux pas l'avoir, ce rôle. Donc, il y a deux choses qui se jouent, c'est-à-dire qu'à la fois des personnes non blanches peuvent jouer des rôles de personnes blanches. C'est là aussi la question de la fiction, c'est-à-dire que
Gérard Depardieu qui joue Alexandre Dumas.
Bah oui, Philippe Lachaud qui joue Nicky Larson.
Par exemple.
Par exemple, ça existe. Et de l'autre côté, il faut aussi des histoires qui se racontent, qui sont aussi des rôles qui seront joués par des personnes noires, parce que c'est des histoires de personnes noires. Donc c'est.
Mais en fait, moi dans le film que j'écris, c'est pas une histoire de personne noire. C'est la femme est noire, c'est une femme, et c'est une universitaire, une romancière qui est une femme noire. Mais la problématique qu'elle a, c'est une problématique universelle qui est ma mère, comment devenir mère à partir de la mère que j'ai. Donc, mais en fait,
son contexte culturel n'est pas absent. C'est-à-dire que tu plaques pas une réalité qu'on voit habituellement dans les films français en mettant juste une noire. C'est-à-dire que sa mère, c'est quand même une mère africaine, et donc tu lui donnes quand même ce contexte culturel.
Complètement. Mais en fait, en lui donnant ce complexe culturel, déjà, ça permet à des gens qui ne connaissent pas ces femmes-là de rentrer à l'intérieur d'elles-mêmes, et en fait de s'apercevoir que, en rentrant à l'intérieur d'elles-mêmes, ils peuvent reconnaître quelque chose d'eux-mêmes. Mmh. Et pour moi, c'est ça que j'essaye de faire depuis effectivement depuis La mort de Danton, mais parce que je trouve que c'est politiquement beaucoup plus puissant que de passer par un discours en disant ne nous enfermez pas dans une image préconçue, stéréotypée. Finalement, à travers nous, à travers nos histoires, vous pouvez raconter, vous pouvez voir vous-même, en fait. J'ai l'impression que... Enfin, et d'ailleurs, je veux dire, nous, on a grandi... moi, je suis une femme noire qui a grandi dans un pays blanc. Je veux dire, dans tous mes systèmes de représentation, je me suis toujours projetée dans des femmes blanches ou dans des histoires de blancs. Enfin, et dans ces histoires de blancs, j'ai trouvé quelque chose qui m'appartenait, aussi bien dans la littérature que dans le cinéma. Et c'est juste au moment où je me dis, l'inverse est possible. Sauf que, est-ce que l'inverse est-il... L'inverse est-il possible ? Moi, je ne suis pas encore passée en commission, je n'ai pas encore soumis mon film en fait, au marché. Et c'est à partir de là que je vais réellement voir. C'est-à-dire, que, est-ce qu'on va me dire, mais non, c'est un film de noir pour les noirs, ou alors les gens vont voir à travers les personnages, à travers l'histoire, à travers l'enjeu, quelque chose de complètement universel, qui dépasse la question de la couleur, quoi.
Bah, on a eu la preuve deux fois en 2018 que l'inverse était possible, puisqu'il y a eu deux films américains qui ont cartonné au box-office. Il s'agit de Black Panther de Ryan Coogler et de Crazy Rich Asians. Donc Black Panther avec un casting quasi intégralement noir, et Crazy Rich Asians qui était 100% asiatique, qui ont très très bien marché aux États-Unis. Et pourtant, lorsque Crazy Rich Asians est sorti en France, Le Parisien l'a décrit comme une niaiserie communautaire. Ce qui n'a pas été le cas de films comme Bienvenue chez les Ch'tis, qui était aussi un film
sur une communauté.
Cette question-là d'identification, on voit bien qu'elle a volé en éclats face à ces représentations-là, finalement, dans lesquelles tout le monde s'est retrouvé. Des super-héros universels, une comédie romantique dans laquelle, finalement, les tensions entre l'arrivée dans une belle famille potentielle, c'est quelque chose que connaît tout le monde, indépendamment de ses origines. Et on n'a plus vraiment beaucoup d'arguments pour dire un film avec un casting qui appartient majoritairement à un groupe minoritaire ne peut pas marcher parce que les gens ne s'identifient pas. Aujourd'hui, on a la preuve que c'est pas le cas. Même si, effectivement, je trouve que dans la sortie de Crazy Rich Asians, en France, il y a eu quand même un problème dans la communication, dans la manière dont ça a été commenté, hein, décrit comme une niaiserie communautaire. Est-ce que tu ne crois pas que c'est un contexte aujourd'hui qui permet de développer des arguments en disant non, en fait, ce n'est pas vrai. On peut ne pas être noir, s'identifier à des noirs, on ne peut pas être asiatique et s'identifier à l'asiatique dès lors que l'histoire est puissante et forte.
Mais c'est-à-dire qu'en fait, je pense que le cinéma, il n'a pas de morale. C'est-à-dire que c'est une question du marché. Et en fait, effectivement, ces exemples-là prouvent qu'en termes de marché, en termes de business, le fait de monter un film avec des acteurs non blancs est porteur. Et je veux dire, Netflix l'a compris depuis bien longtemps. Et d'ailleurs, c'est incroyable. Moi, j'ai vu la série de Spike Lee. Effectivement, il y a un marché. En fait, je pense que la série Insecure, elle n'est pas que regardée par des femmes noires. Je pense qu'il y a plein de femmes qui regardent. Comme moi, j'ai pu regarder Sex and the City en son
Friends.
Temps. Donc, effectivement, mais je pense que c'est, en tout cas, en France, j'ai l'impression que.
On parle des States et du coup, il y a le côté, parce que Crazy Rich Asians, ça marche aussi, enfin ça a marchoté en France parce que c'était des Américains. Ils voient d'abord les Américains avant de voir que ce sont des Asiatiques. Et ça, je pense que c'est quelque chose parce que là tu parles d'argent. Enfin, avant d'accéder au public, il faut que le film il soit financé. Ouais. Il faut que le film t'ait des sous. Et quand tu passes en commission du CNC ou enfin je sais pas quelle institution qui va donner vie ou tuer un projet, ces gens-là, ils n'y croient pas. Voilà.
Moi, je l'ai pas encore. Enfin, j'espérais que ça peut pas. Enfin, je suis encore dans cet espoir-là que les choses peuvent passer. Qu'il y a quelque chose qui bouge. On m'a sollicité pour être en commission. Les commissions changent. J'ai l'impression qu'il y a une attention à ces questions-là et on voit bien qu'on ne peut plus en fait faire comme si nous n'étions pas là. Et il y a quelque chose qui à mon avis, j'ai l'impression que c'est inéluctable. Après, je suis peut-être trop optimiste, mais j'ai tellement l'impression que c'est le sens de l'histoire et que le cinéma a besoin de nous. Le cinéma français a besoin, à mon avis, de renouveler ses sujets, ses idées, la manière de le faire. Enfin, c'est en ça où un mec comme Kechiche est la plus belle chose qui soit arrivée au cinéma français depuis 15 ans. Enfin, on n'est peut-être pas beaucoup à le penser, mais vraiment, on a besoin de ces récits-là. On a besoin de. Et c'est hyper important. Et je veux dire, j'ai l'impression que c'est le sens de l'histoire, mais est-ce que la France en est là ? J'en sais rien. En tout cas, pour reparler de Black Panther, ce que je n'ai toujours pas vu, parce que je n'ai jamais vu un seul Marvel de ma vie, en fait, c'est pas tout à fait mon type de cinéma. tu me connais. Hein, j'ai été voir James Bond avec toi pour la première fois de ma vie, mon premier James Bond. Mais je sais que mon fils de 10 ans a vu Black Panther avec une telle joie. Et en fait, lui, il n'a pas un espèce de discours politique. Il ne va pas dire, voilà, ma joie, elle est là parce que je ne me suis jamais vue avant. Mais je sais que c'est un film qu'il voit, qu'il revoit, qu'il revoit, qu'il revoit. Et effectivement, quand j'avais son âge, ce qui est très signifiant, c'est que quand je me projetais adulte, j'étais devenue blanche. J'étais plus noire, j'étais blanche.
Tu n'avais pas d'image de toi-même.
Je pense que pour moi, devenir adulte, c'était forcément devenir blanc parce que la représentation des adultes qui m'était donnée, tout d'un coup, je n'existais pas, ni en allumant la télé, ni en allant au cinéma. Donc je pense que c'est là où ces questions-là sont des questions éminemment importantes et politiques.
Ouais, t'as parlé de soft power et de représentation et de l'importance de la représentation pour nous, même si on est adultes,
pour
nos enfants.
Bien sûr.
Oui, pour nous projeter, pour nous imaginer dans des situations de vie, en fait. Et même si je ne m'imagine pas... avec des super pourrois.
Moi, je pense que plus que pour nous, en fait, c'est pour un nous beaucoup plus vaste. Je pense que la France a un besoin urgent de se représenter telle qu'elle est aujourd'hui en 2019. Pour moi, c'est quelque chose de politique.
C'est impérieux.
C'est vraiment impérieux. C'est-à-dire que les périls qui nous guettent, la violence qu'on subit, mais elle est aussi, dans une certaine mesure, complètement... elle provient de cette incapacité d'updater le réel, c'est-à-dire d'une incapacité finalement à voir le pays tel qu'il est. Et je crois en ce sens, encore une fois, que le cinéma a une énorme responsabilité. Il ne peut pas tout, je veux dire, le cinéma il est le fruit du contexte sociologique et politique dans lequel il est fait, mais je pense que c'est urgent de... Moi, je ne crois plus tellement à la politique, en fait. Je sais que je suis arrivée au cinéma finalement, par les émeutes de 2005, ça m'a profondément ébranlé, la mort de Bouna Eziyed.
T'as réalisé un documentaire d'ailleurs qui s'appelle Cliché pour
l'exemple. J'ai réalisé un documentaire, c'était un de mes premiers films. Et en fait, je suis rentrée en cinéma presque comme on rentrerait en politique, en fait, avec le souci impérieux d'offrir en fait une représentation complètement différente. Et au départ, je le faisais en étant dans un discours beaucoup plus frontal, dans quelque chose où j'étais vraiment encore très empreint de ma formation initiale qui est la sociologie. Et plus j'avance, plus je vois en fait à quel point apposer une idée contre une autre, un discours contre un autre, est un peu stérile, parce que finalement les gens ne veulent pas voir, en fait, et sourd celui qui ne veut pas entendre aussi, et aveugle celui qui ne veut pas voir. Et du coup, je me dis, mais il faut inventer en fait des formes qui permettent aux gens d'éprouver. Et pas de se rendre, d'éprouver. Et c'est en ça où j'ai fait un film comme La Permanence, qui naissait vraiment d'une colère politique dans la manière dont on pensait en représenter l'exil et la migration. Et pour moi, il fallait que j'invente une forme qui permettait aux gens d'éprouver tellement d'empathie pour ces hommes-là que des discours à la con comme on ne peut pas accueillir la misère du monde soient totalement mis en échec par l'émotion éprouvée devant la détresse d'un homme. Et en fait, presque toute la construction en fait, cinématographique du film n'avait que cette obsession-là, c'est-à-dire que les gens éprouvent ce que c'est que d'être un exilé, et en l'éprouvant finalement, même le plus connard des fachos puisse quelque part en éprouver une forme de... d'empathie. Je ne dis pas que j'y suis toujours arrivée, mais je sais que j'ai été une fois invitée pour une projection de La Permanence dans une ville à 60% facho, je ne dirais pas laquelle, devant le maire, qui était obligé de m'inviter parce que c'était l'ouverture du mois du doc, etc. Donc c'était tout un cérémonial, et qui a commencé le film en disant oui, voilà, les films comme machin, c'est des films de gauche, oui, on voit bien qu'on ne peut pas accueillir la misère du monde, etc. Enfin, le discours habituel, c'est bien gentil, les bons sentiments, etc., mais la réelle politique est beaucoup plus complexe que ça. Et finalement, à l'issue du film, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui s'était déplacé chez cet homme. Il a vraiment, enfin, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais ça a été une victoire pour moi. Et je pense vraiment que le cinéma peut permettre d'éprouver en fait le réel en mettant en échec finalement les discours, les a priori, les stéréotypes, en obligeant les gens à rentrer dans la vie et dans la tête d'une femme comme Zainabou. Comme je tente de décrire.
Qui est ton personnage.
Longue digression.
Non, mais c'est intéressant. C'était parce que du coup, ce que tu dis, c'est que tu peux transformer les représentations. Parce que les discours politiques, en fait, plaquent des espèces de réalités schématiques.
Non, mais les gens n'entendent plus, en fait.
Surtout. Et puis surtout,
non, mais en fait, c'est des faits objectifs, mais face auxquels on peut toujours détourner. C'est-à-dire qu'on pourra toujours avoir un contre-argument pour dire bah non, mais c'est pas tout à fait ça. Mais là, en fait, c'est passé par le biais de l'émotion et de la sensibilité, en fait.
C'est l'humanité que tu vois, et c'est pas juste des statistiques. C'est pas juste il y a tant de migrants, ils sont comme si.
Voilà.
Regarde ce mec-là,
c'est une vraie personne, en fait. C'est-à-dire que c'est pas des personnages comme quand Emmanuel Macron parle de Jojo le Gilet jaune,
voilà.
Qui est un personnage.
Voilà.
En fait, quand tu entends parler cette personne et qu'elle te décrit son quotidien, tout d'un coup, c'est une réelle personne et tu peux plus la décrire comme un archétype. C'est le terme que je cherchais.
Exactement. Et enfin, encore une fois, pour citer un auteur que j'admire énormément, une cinéaste qui s'appelle Claire Denis, quand elle fait 35 Roms, c'est un exemple que je cite toujours parce que moi, il m'a vachement pas rassurée, mais il m'a fait du bien ce film. C'est l'histoire d'un père et de sa fille qui ont du mal à se quitter, une espèce d'amour fusionnel entre un père qui est joué par Alex Descasse et une fille qui est jouée par Mati Diop. Et en fait, dans le film, tout le monde est noir jusqu'à la caricature. C'est vraiment, c'est un film très intimiste qui se passe dans cette famille-là. Et l'objet du film, l'enjeu du film, c'est va-t-elle réussir à quitter son père pour vivre sa propre vie, pour tomber amoureuse de l'homme qu'elle aime? Est-ce qu'elle va réussir à quitter son père? Et en fait, le film, je ne sais pas si c'est un des films qui a le moins marché, je crois, de Claire Denis. Et je me souviens que quand elle a fait Un beau soleil intérieur, j'étais allée écouter une masterclass qu'elle a donnée à la Cinémathèque française. Et le directeur de la Cinémathèque française lui a dit un truc qui m'a vachement bouleversée et vachement blessée, en fait, en lui disant... C'est drôle parce que avec le personnage que vous nous proposez jusqu'à présent, en fait, vous avez un peu travaillé avec La Marge, avec des acteurs noirs, etc. Avec ce film Un beau soleil intérieur qui est à ce jour son plus grand succès, donc joué par Juliette Binoche, vous nous proposez, il lui a dit, enfin, je paraphrase à peine sa phrase, mais nous vous proposez enfin une identification possible.
Alors déjà, c'est qui nous? Enfin voilà.
J'ai écouté ça.
C'est incroyable.
Me suis dit, c'est incroyable. Ouais. Moi, quand j'ai vu 35 Roms, pour moi, c'était justement, en fait, elle atteignait ce que je cherche, c'est-à-dire de faire de ces personnages noirs un couple universel. C'est-à-dire que tout le monde, tout le monde qui peut se reconnaître dans cette fille qui a du mal à quitter son père pour faire sa propre vie. Et tout d'un coup, lui dire que le film suivant avec Juliette Binoche Enfin, j'étais, mais en fait, ça m'a tellement. Personne n'a relevé dans la salle. Bah, j'étais un peu. On n'était pas beau. Enfin, j'étais la seule noire, ou on était peut-être deux ou trois. Mais moi, ça m'a vraiment blessée, en fait. C'est comme s'il m'insultait. Je me dis, ouais. Mais vraiment, il y a un. Je
pense qu'il ne se rend même pas compte.
Il ne se rend même pas compte de ce qu'il dit. Tu veux nous proposer enfin une identification
possible.
C'est
incroyable.
Mais c'est grave, cette phrase.
C'est très grave.
C'est quand même. Ça m'a vachement. Moi, ça m'a blessée, en fait.
Bah, c'est très blessant.
Ça m'a vraiment blessée. Je me suis dit, bah voilà. On peut, en fait, noir n'est pas mon métier, c'est ça. On n'est pas, c'est, on n'est que noir, quoi. On
c'est
peut
ça.
Pas
noir n'est pas mon métier, qui est l'initiative qui a été lancée par 16 actrices avec le moteur Aïssa Maïga, qui a vraiment initié tout ça, qui montre en fait les actrices qui parlent de leur place dans le cinéma français, qui est pas toujours évidente.
Ouais, non, mais c'est incroyable.
Et ben on compte sur toi, Alice, pour proposer une identification.
Mais moi, j'espère
qu'en fait, c'est tout.
Je pense que ce qui est important aussi, après, j'arrête.
Après, c'est la fin, donc.
C'est que j'espère. En fait, il faut qu'on soit nombreux et nombreuses. Et souvent, en fait, dans le monde du cinéma, etc., il y a une place pour une personne qui ferme la porte derrière et qui dit, bah voilà, en fait, je vais être votre noir. Pour paraphraser, je ne serai pas votre nègre. Mais en fait, il y en a besoin d'être nombreux. Parce que plus on sera nombreux, plus on sera vu aussi comme des êtres singuliers. Et un film d'Alice Diop, c'est pas un film de Meymouna, c'est pas un film de Mati Diop, c'est pas un film d'Amandine Gay. Ce sont des films faits par des femmes très différentes, au parcours différent, et qui ont chacune finalement à apporter quelque chose de singulier, quoi. Et je crois que moi, je milite vraiment pour. Enfin, plus on sera nombreux, plus on sera vus aussi comme des cinéastes, en fait, j'ai l'impression.
Ouais, et moins on sera considérés, enfin, les seules personnes qui seront là seront considérées comme
voilà,
l'emblème,
des porte-paroles
et puis
voilà,
l'alibi
exactement.
Aussi.
Exactement.
Merci beaucoup, Alice Diop.
Merci,
merci
Alice. Merci, nous arrivons à la fin de cet épisode de Kif Taras consacré au cinéma français et la ligne de couleur. Merci à Alice Diop de nous avoir donné son expertise. N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange que nous venons d'avoir. Si vous aussi vous trouvez que le cinéma français ne reflète pas la société française, ou qu'au contraire vous trouvez que c'est très bien ainsi, hein. On est aussi heureux d'entendre votre parole.
Toutes les opinions sont bienvenues, hein. Écrivez-nous à kiftaras@binge.audio, binge B-I-N-G-E, ou contactez-nous sur les réseaux sociaux en suivant @kiftaras sur Twitter et sur Facebook, ou avec le hashtag Kiftaras. Kiftaras est un podcast de Binge Audio. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et une nouvelle thématique. Merci beaucoup, Grace.
Merci, Rokaya.
Binge.